goût du monde, Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde, le bon goût ou le mauvais goût, le pas de goût du tout, le goût de rien, ou bien si du gras salé, du sucré, du tellement transformé qu'en fait on ne sait plus vraiment où on se situe et ce que c'est. Est-ce cela le goût de la pauvreté, Alexis Génie ?
Bah tout à fait, oui, c'est vrai que le tellement transformé, ce qu'on trouve dans la grande distribution, ce qu'on trouve comme nourriture pas chère, ça nourrit au sens où ça, en effet, il y a de la calorie, voilà. Mais c'est tout à la fois mauvais, sans goût spécial, et puis finalement, à la longue, assez toxique. C'est-à-dire que se nourrir de ces aliments transformés à bas prix mène à l'obésité, au diabète, à toutes les pathologies qui sont en explosion dans le monde. Et c'est quelque chose qui est terrible. C'est-à-dire qu'en France, on ne meurt pas de faim. Il y a de quoi. Mais le problème, c'est un problème de malnutrition générale et qui est plus aggravé avec la pauvreté. Parce que voilà, l'agro-industrie produit des aliments pas chers. Mais pas bon.
Je vais peut-être vous présenter Alexis Génie. Vous êtes écrivain, romancier. Vous avez écrit La Française de la guerre il y a 10 ans maintenant, qui a été pris Goncourt. Je vais dire que vous êtes un écrivain engagé. Enfin, moi, je le crois. Parce que quand on écrit un livre comme celui que vous avez publié au printemps avec Frédéric Danhé, Ensemble pour mieux se nourrir, sous la direction de Boris Tavernier, le fondateur de Vrac, dont on va parler évidemment pendant cette émission, on est forcément un peu engagé.
Alors, je ne sais pas si je suis engagé. Je suis un garçon naïf que l'injustice scandalise, voilà, et que les inégalités aussi de notre monde scandalisent. Il se trouve que bon, je sais un peu, parce que je fais ça toute la journée, je sais un peu raconter les choses. Alors je me dis que si je peux utiliser ça pour une bonne cause, finalement, c'est pas mal. C'est-à-dire que d'utiliser la capacité à transmettre les choses, à les voir et à les dire, pour cette bonne cause d'une lutte contre les injustices et les inégalités, voilà. Donc, mais c'est un engagement modeste et un petit peu simple, mais voilà, c'est le mien.
Une action cependant, ça reste une action.
Oui, alors. Et puis c'est vrai que c'est aussi passionnant, voilà. Donc ce livre qu'on a fait à trois, c'est moi je suis très ami avec Boris Tavernier, dont qu'on a cité, et puis très ami aussi avec Frédéric Danhé. Donc finalement c'est aussi trois copains qui ont un peu les mêmes idées, trouvent aussi que les inégalités ça va vraiment pas. Alors on va en parler, on va décortiquer ça et on va dire ce qui va pas. Voilà. Et avec aussi des ébauches de solutions. Voilà. Donc c'est un genre de témoignage et d'élucidation des choses. C'est important, ça, de comprendre comment les choses se passent avec un peu de
distance.
Voilà, de distance pour comprendre l'ensemble du système. On en parlera sûrement, mais en fait, quand on voit que la pauvreté, cette malnutrition, etc., et on voit qu'il y a des systèmes qui permettent de distribuer de la nourriture à des gens qui en ont besoin, on peut dire, ah bah c'est pas mal, il y a des gens qui ont faim, il y a moyen de... Et finalement, si on prend un peu de recul, si on regarde l'ensemble du système, bah ce système-là, de caritatif distributif, n'est pas satisfaisant, il y a quelque chose qui va pas. Heureusement que ça existe en
dans
cas de...
Dans l'urgence en tout cas.
Bah, en cas d'urgence, en cas de crise, voilà. Mais au long terme, ça entretient le problème, voilà, c'est pas... Donc il faut réfléchir à quoi faire dans cette situation-là.
Ensemble, pour mieux se nourrir, donc c'est publié chez Actes Sud, dans une collection très précise qui est Les chemins du possible, ce qui veut bien dire aussi dans quoi on s'inscrit. Cela parle donc de ce que l'on mange, de pauvreté et de cette fatalité qu'on doit absolument déboulonner et envoyer balader, c'est-à-dire que être pauvre ne veut pas dire que l'on est condamné à manger du recyclé, de l'invendu du monde, du pas bon en fait. D'ailleurs, la pauvreté, la précarité alimentaire, quand on parle de ces deux termes, de quoi parle-t-on ? Enfin, on l'a ébauché déjà avec le goût de la pauvreté.
Oui, oui. Alors c'est ça, c'est-à-dire que nous fonctionnons avec une agro-industrie. Et on a depuis quelques dizaines d'années une façon d'industrialiser l'agriculture. Il y a des produits qui sont fabriqués dans des usines, qui sont des produits alimentaires pas chers. Bon, les gens qui ont peu de moyens peuvent acheter ça. Et puis, les surplus de tout ça vont être donnés à des banques alimentaires et les gens qui ont vraiment, vraiment pas de moyens vont pouvoir recevoir ce genre de choses. Ces produits sont des mauvais produits alimentaires, déséquilibrés. Et bon, à terme, c'est des choses qui influent sur la santé.
Déséquilibrés, c'est-à-dire qu'ils vont contenir peut-être une part de sucre trop importante.
Voilà,
on va miser
gras,
sur les sucres
voilà.
rapides et non pas sur les
Absolument.
Sucres lents.
Voilà, c'est très sucré. Alors, ce sont des produits flatteurs. Parce que le gras sucré, c'est bon. Tout ce qui est un peu fast-food, on rajoute du sucre, voilà, c'est un peu trop gras. Voilà, ça fait du bien, c'est la nourriture un peu cocon.
Mmh. Une caresse alimentaire, quelque
voilà, part, quelque chose comme ça. Et c'est pas cher du tout. Mais à terme, ça manque de vitamines, de fibres, de protéines, etc. Enfin, donc, c'est pas un bon équilibre alimentaire. Alors là, on va dire, oui, mais les produits alimentaires de bonne qualité, c'est cher. Et donc, par définition, les pauvres, rien. Eh ben, justement, c'est la question qu'on pose. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer un petit peu les choses et que chacun, quels que soient ses moyens, puisse avoir accès à une alimentation de qualité.
Donc qui nourrissent vraiment,
qui apporte tous ces éléments nutritifs totalement indispensables. Alors après, quand je dis que c'est mauvais pour la santé, les statistiques le disent, c'est-à-dire que les problématiques d'obésité, de diabète sont surreprésentées dans les classes populaires. En gros, plus on est riche, plus on est mince. Et plus on est pauvre, plus on est gros et on a des problèmes de santé divers. C'est statistique, ça veut dire après il y a plein de contre-exemples. Et ça c'est extrêmement important. Et l'idée de base du livre, c'était de voir comment on pouvait finalement s'en sortir, c'est-à-dire pouvoir avoir accès à ces produits de qualité et sans passer par cette agro-industrie, sans passer par le système caritatif, essayer finalement de se prendre en main dans un processus un peu d'empuissancement, comme dans une mauvaise traduction de l'anglais.
Ça veut rien dire, ça.
Voilà. Si, mais faut parce que empowerment.
Donc de prendre en fait sa liberté, de choix et de prendre sa vie en main.
Tout à fait, prendre sa vie en main. C'est-à-dire que alors tout au départ, c'est le Secours catholique qui a eu l'idée. Secours catholique avec lequel on a travaillé les uns les autres, qui est une structure admirable, qui justement a ce slogan « Donner à chacun un accès digne à une alimentation de qualité ». On peut qu'applaudir. Hein. Et il voulait qu'on fasse une sorte de manuel sur les groupements d'achat. Le groupement d'achat, ce sont des gens qui s'auto-organisent pour avoir accès à des produits alimentaires de qualité, pour des raisons soit, on va dire, de idéologiques, d'utopie, soit pour des raisons de nécessité, parce qu'il n'y a que cette façon-là pour y arriver. Et puis finalement, on s'est dit, on va pas faire un manuel, parce que d'abord, on n'y connaît rien, et puis c'est très divers. Donc, on va faire une enquête. Et nous sommes allés dans différents endroits de France, voir comment les gens faisaient. Et on a vu des gens qui s'auto-organisaient par eux-mêmes pour arriver à obtenir ces produits alimentaires corrects, de bonne qualité, pour un prix qui est possible pour eux. Donc c'est une façon aussi de montrer des changements dans les circuits de distribution. Par exemple, on m'a dit à propos de ce bouquin, « Ouais, mais quand même, c'est vachement utopique ce que tu dis, parce que les produits bio, c'est cher !»
Oui, parce que, alors, on va déjà dire une alimentation saine n'est pas forcément une alimentation bio. Cependant, il y a un parti pris, notamment de Boris Tavernier, qui dit voilà. Si on peut manger des produits locaux,
si on peut
bio,
le faire, on peut le
si
faire.
On peut,
voilà. Mais c'est vrai que c'est pas l'essentiel. Après, des produits locaux, des produits qui sont bien produits. C'est-à-dire que, et même parfois le bio de supermarché peut être catastrophique. C'est-à-dire que on peut avoir des tomates espagnoles sous serre avec un impact environnemental terrible, un impact social terrible.
Pas de pesticides, et c'est bio. Mais
donc c'est une catastrophe, c'est n'importe quoi. Il peut y avoir des très bons produits de qualité, etc., qui sont pas répertoriés comme bio, mais qui sont excellents. Donc on m'a dit ouais, mais c'est cher, etc. Voilà, ça se vend dans des boutiques de centre-ville pour les gens riches. Bah non, il suffit de changer les circuits. Et bon, en vrac, on en parlera, change les circuits. Et donc, permet aux gens des cités d'avoir ces produits à un prix tout à fait raisonnable, mais moins cher qu'en supermarché. Mmh. C'est vrai qu'à système constant, les pauvres ne peuvent pas avoir accès à cette nourriture de qualité. Et il faut changer les systèmes pour ça, à changer les systèmes de distribution, de commercialisation, etc.
Une révolution.
Ah ouais, mais alors, ce qui est terrible aussi, c'est que par rapport aux producteurs, c'est aussi extrêmement intéressant, c'est que si on change ces systèmes de commercialisation, on passe plus par la grande distribution, et on sait bien que la grande distribution détruit les producteurs en leur achetant leurs produits trop peu chers pour pouvoir les vendre peu cher, en prenant des marges au passage. S'il y a des systèmes de vente directe, de circuits courts, etc., bah, tout le monde peut avoir accès à ces produits-là.
On notera bien que dans votre livre, ce sont des solutions qui sont mises en lumière et dont on va parler évidemment tout au long de cette émission. Cependant, pour l'instant, elles sont encore assez marginales, ces solutions. Il faut être...
Tout à fait. Mais alors justement, moi, j'y crois vraiment à ça. C'est-à-dire que le bon niveau pour une transition sociale et écologique possible, c'est plutôt le niveau de la base. C'est-à-dire que le niveau étatique... Le niveau étatique, c'est ok, bon, pourquoi pas, il va y avoir un candidat écologiste, tout ça. Mais Ce problème, c'est que ce niveau étatique, c'est le lieu des lobbies, c'est le lieu des grandes puissances, etc. Donc les projets s'annulent. Il y a chez les gens, les gens normaux, des initiatives qui fédèrent 5, 10, 15, 20, 100 personnes qui fonctionnent. Et puis c'est ça qu'il faut aller voir, c'est ça qu'il faut rendre public, c'est ça qu'il faut multiplier. Et c'est pas destiné à s'agrandir beaucoup, c'est destiné à ce que finalement beaucoup d'initiatives germent, qui soient adaptées à la situation locale. Et donc l'espoir que nous avions en faisant ce livre, c'était de venir visiter des graines et en espérant que ça pousse.
Et elles ont poussé.
Il y en a. Alors, il y en a qui marchent pas, il y en a qui marchent. On peut pas attendre que les choses changent d'elles-mêmes, c'est des façons de, à petite échelle. Moi, je crois beaucoup à la petite échelle.
Voilà. C'est d'ailleurs instructif parce que tout n'est pas rose. Il y a des exemples qui ne fonctionnent pas et dont vous dites que ça ne peut pas fonctionner et les raisons pour lesquelles c'est difficile pour eux de fonctionner. Mais on va les voir. Ce que je vous propose d'abord, c'est de revenir sur cette aide alimentaire dont on a parlé au tout début parce que majoritairement encore aujourd'hui, c'est une aide alimentaire que trouvent les personnes qui ne peuvent plus acheter à manger, en tout cas qui ont besoin d'aide pour vivre. Plusieurs organisations et associations distribuent cette aide alimentaire. Le Secours Populaire, que je suis allée rencontrer, à Boulogne-Billancourt, près de Paris, où sont distribués chaque semaine des colis composés de nourriture de base, avec les produits du Fonds européen de l'aide aux plus démunis, complétés par des fruits et des légumes que l'association, elle, achète. Ce jour-là, c'est Catherine qui m'accueille et m'explique un petit peu le fonctionnement.
Pour le libre-service alimentaire, les familles sont recensées au nombre de personnes, combien d'adultes, combien d'enfants, quel âge pour les enfants, est-ce qu'il y a des bébés, est-ce qu'il faut des couches, etc., etc. Et ils sont reçus selon le nombre de membres présents dans le foyer, ils sont reçus à des heures très précises. Étant donné le nombre de personnes que l'on a, 350 à 400 personnes chaque mercredi, donc on est bien obligé de s'organiser en termes d'horaire. On peut plus faire entrer les bénéficiaires dans nos locaux, donc on peut rien organiser à l'intérieur. Donc on fait ni aide aux devoirs, ni atelier. Par contre, il y a énormément d'associations qui le font, donc on dirige les gens.
Et ce serait pertinent, selon vous, de faire des ateliers de cuisine et tout ça ?
Oui, parce que on se rend compte à la distribution alimentaire que des familles étrangères vont pas prendre tel ou tel produit qu'elles ne connaissent pas. Donc il faut lui expliquer ce que c'est, il faut lui dire voilà comment vous pouvez le cuisiner, et il faut toujours garder en mémoire que beaucoup de gens vivent en hôtel et ne disposent que d'une casserole et d'une plaque électrique. C'est pas toujours évident.
On va y aller là. Vous les avez vus là ? Il y a une personne qui a le dossier de la personne avec sa fiche complète, disons composition de la famille, ses préférences culinaires en fonction de sa culture. Voilà, on leur demande. Et à partir de là, chacun à son poste, en fonction des produits dont on se charge, on va remplir un colis. Il va être regroupé ici et attribué à la personne sur les tables là. Alors, charge à elle de remplir son caddie avec tout ça. Voilà. Alors, quand c'est une famille de 6 personnes, 7, ça peut aller jusqu'à 7. Et c'est pour 15 jours.
On a le Fonds européen qui nous fournit des produits de base, on va dire. Quand il n'y en a pas aussi au FEAD, on achète dans les grandes surfaces.
Donc, vous fournissez des produits frais, là. Je voyais des bananes, il y a des pommes, des oignons.
Ça, c'est ce qu'on commande.
La fédération.
C'est la fédération.
C'est le Secours Populaire, quoi.
Vous essayez justement que cette part, elle soit plus importante, moins...
Mais il faut que ce soit équilibré, en fait. Il y a un petit peu de tout, hein, c'est obligatoire, beaucoup de légumes, les fruits aussi. Ça n'est que par les dons que l'on peut se permettre d'acheter des tas de produits alimentaires. Et puis de l'hygiène aussi.
Ça y est, c'est parti. 4, 2 adultes et 2 enfants, 8 et 3.
Donc des pâtes, du lait important, le lait j'imagine.
Le lait, il y a toujours 1 litre de lait par personne dans la famille.
Il y a du fromage, pour...
Là c'est une famille de 4.
Mais c'est pour 15 jours.
T'as mis ton beurre, voilà ou...
J'attends. Juste la dernière minute. Je peux le mettre maintenant.
Oh oui, parce que c'est pas... Il fait 1000.
Patricia, quelle table ?
La table numéro 1, là.
Okay.
Ouais.
Alors 4, 1 adulte et 3 enfants. 20, 16, 14.
C'est bon pour toi, là ? T'as pris numéro 2.
Oh ouais, l'année dernière, c'était... Même là, on arrive à avoir 100 familles, ce qui fait à peu près 600 personnes en tout, chaque semaine.
Est-ce que vous avez des familles qui, un jour, arrêtent ?
Ah ben oui, on est contente quand ça veut dire qu'ils ont trouvé du boulot, ça veut dire oui, absolument. Et il y en a qui sont fidèles. On a vu le changement avec Bernard, avec le Covid quand même. C'est qu'on a vu que les gens prenaient quand même beaucoup plus de viande, des steaks hachés ou du poulet, que ce soit là ou pas. Nous, on n'en a pas, mais... et sans distinction, parce qu'ils avaient besoin de donner à manger, surtout à leurs enfants.
Allez, encore une petite lentille.
Merci.
Vous les connaissez tous?
On ne connaît pas toujours tous les noms, mais oui, à force, oui. Et après, on connaît un petit peu leurs habitudes.
Donc, une distribution alimentaire, comme on peut en découvrir chaque semaine en France. Alexis Jeanny, quand vous entendez ce genre de reportage, ça vous fait penser à quoi?
Moi, déjà, je trouve que les gens qui font ça sont admirables, clairement, et que heureusement qu'ils sont là, heureusement qu'ils existent. Et puis bon, on voit bien qu'il y a un besoin, qui est que le nombre de bénéficiaires, comme on dit, augmente. Puis bon, finalement, heureusement qu'il existe tous les systèmes qui permettent de rassembler des aliments à donner. Bon, après, il y a des aspects tordus, en fait, dans ce système. Je parle vraiment pas des gens, je parle du système tel qu'il est organisé. Par exemple, ce fonds d'aide aux démunis, ce fonds européen, pense très bien. C'est-à-dire que il y a de l'argent, des milliards d'euros qui
sont... Financés par les États.
Financés par les États, mais c'est un gros budget, qui vont distribuer aux différentes banques alimentaires des produits à redistribuer après par les associations.
Ils font des appels d'offres, d'ailleurs, pour récupérer.
Voilà, j'en parle un peu dans le bouquin. Il y a une histoire assez abracadabra. Parce que ce fonds européen fait des appels d'offres pour fabriquer des plats, des produits alimentaires, des plats cuisinés, choses comme ça. Bon, et c'est des industriels qui vont le faire. Et on a vu une histoire terrible de steak haché sans viande. Et c'était les associations distributives qui s'en étaient aperçues.
Dans celle de Boulogne, d'ailleurs.
Voilà, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des glaçons dans la viande, c'est pas normal. Enfin bon, parce que c'était congelé. Donc il faut analyser eux-mêmes. Et là, on se rend compte que c'est fait avec du gras, de la peau, du tendon, de l'amidon et du soja, etc. 0 g de viande. On remonte un peu le truc, c'est l'usine polonaise qui avait raflé l'appel d'offres et qui avait fait du faux steak. Ça, c'est sûr, il devait être moins cher que les autres. Bon, ce qui est terrible, c'est que bon, il y a eu c'était pas légal tout ça, mais l'inculpation c'était étiquetage frauduleux. Mais par contre, l'idée qu'une usine fasse de la nourriture pour les pauvres qui soit encore pire que de la nourriture pour animaux, ça c'est pas illégal. Et ce qui est terrible aussi, c'est que de l'usine aux banques alimentaires, etc., c'est passé inaperçu. Ça veut dire que soit ça a passé tous les contrôles, soit il n'y a pas eu de contrôle. Donc là, on est dans un système un peu pervers, c'est-à-dire que c'est pas un accident. C'est tout le système converge vers ça, c'est-à-dire que des appels d'offres, le moins 10 ans qui gagne, et pas de contrôle, et puis après, on va distribuer ça aux gens, et puis ils sont bien contents, parce que d'abord, il vaut mieux ça que rien, voilà, c'est ça. Bon, et là, il y a un truc qui est terrible, et on a vu dans notre voyage, dans ces différents groupements d'achat, il y en a qui faisaient un peu aussi la distribution, et bon, les retours qu'on avait sur ces produits européens, c'était que c'était vraiment de la sous-nourriture. Et donc, voilà, c'est un problème. Pourquoi produire ça? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'utiliser ces milliards différemment? Parce que c'est pas manger une sorte de pâté de tendon, c'est pas terrible. Alors, après, il y a aussi quelque chose aussi, c'est le pauvre qui vient quémander. Ça pose un problème. Ça pose un problème à ces gens-là déjà. Ça, on a eu un retour régulier qui nous disait venir à la banque alimentaire, venir à l'association. On tend la main et c'est la honte, quoi. C'est-à-dire qu'on veut pas y aller, on n'ose pas y aller. C'est très humiliant en fait d'aller demander. Mais d'un autre côté, la société, elle a un discours, sur les assistés, etc. Et puis aussi, bon, des fois ils sont un peu ingrats, vous savez, parce que on avait entendu ça. Je raconte aussi dans le bouquin. Ah oui, vous savez, il y a des produits, on n'arrive pas vraiment à les écouler. Quoi, par exemple? Des produits où il y a de la charcuterie, des fois les gens ils en veulent pas. Et on pourrait penser que quand on a faim, on peut passer par-dessus certaines choses. C'était dit de façon très habile, c'est-à-dire qu'on voyait bien de quelles certaines choses il s'agissait. Et face à ça, je dis mais l'être humain ne mange pas n'importe quoi. S'il y a des interdits alimentaires, c'est très très fort. Moi quand je vais dans un supermarché chinois, j'ose pas tout manger, je sais pas comment on fait, je sais pas ce que c'est ça, donc je ne le mange pas. Voilà, et à peu près dire, quand on a faim, on mange n'importe quoi, c'est très méprisant, c'est humiliant, donc là ça fait partie de cette humiliation du pauvre. Et avec ce soupçon d'assistanat aussi, c'est-à-dire que, ceux qui sont là, c'est parce qu'ils se remuent pas, ils traversent pas la rue pour aller chercher un emploi, comme dirait notre...
Ils pourraient se débrouiller quand même.
Ils pourraient se débrouiller, bon. Et là, je trouve que il y a quelque chose de très violent, en fait, dans ce système. Même si les gens qui y participent, ceux qu'on a entendus, sont des gens admirables. Voilà, mais il y a quelque chose qui est C'est qui est un peu vrillé. Le système est à quelque chose de tordu, mais il est animé par des gens admirables. Enfin voilà. Et donc, je pense qu'il serait bien de pouvoir réfléchir à ça, c'est-à-dire comment faire pour que le système soit moins violent et moins humiliant, et pour que les produits qui sont distribués, qui sont donnés, qui sont puissent être des bons produits. Voilà. Et une des solutions, en effet, c'est cette idée d'auto-organisation, de prise en charge. Là, la dame qu'on a entendue, elle a parlé des bénéficiaires. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup des bénéficiaires. J'ai un peu fréquenté ATD Carmonde, qui ont une idée totalement différente. Eux, ils disent que ce sont des militants. Alors, la première fois, on se dit, qu'est-ce que vous... Oui, ouais, parce que ce sont des gens qui vont se battre pour sortir de leur situation, de la pauvreté, etc. Et c'est eux les battants. Eh ben, simplement dire ça, ça change totalement les perspectives. Puisque dans la perspective classique, bon, ben, c'est des gens qui sont un peu assistés et ramollis. Chez ATD Carmonde, c'est les battants.
Le goût du monde. Clémence Denavy.
Mendelolo de Joey Homicile. Alors, c'est pas le groupe, c'est le leader de ce groupe, mais qui s'entoure d'extraordinaires musiciens. Donc, un Haïtien qui a grandi au Québec, qui vit pas mal à Paris. Voilà, une source de musique que j'adore.
Foisonnante.
Ah oui.
Comme vos idées, pour mieux se nourrir. Ensemble, surtout. Le mot est très important. Ensemble, pour mieux se nourrir, ça veut dire que l'humain est vraiment mis au centre de toute cette action et de ses idées. Vous nous rejoignez, vous écoutez RFI, vous écoutez Le Goût du Monde, nous parlons de mieux se nourrir, tout simplement. Je voudrais juste revenir un tout petit peu sur ce reportage au Secours Populaire et rappeler qu'à la fin de ma venue, j'ai parlé avec Catherine, avec Bernard, Patricia, Alain et les autres, et ils m'ont tous dit en fait que leur volonté la plus chère, ils aimeraient beaucoup arriver à rencontrer des maraîchers pour pouvoir acheter justement le surplus du colis, ne serait-ce que ça, plutôt que de l'acheter au supermarché, de l'acheter localement auprès de maraîchers, parce que de toute façon, ils n'ont pas l'espace suffisant dans leur local pour pouvoir stocker. Ça, c'est des problèmes qui sont permanents, le stock, l'argent pour acheter.
Tout à fait, non, mais c'est parce qu'ils ne sont pas équipés pour ça. Mais c'est vrai qu'arriver à avoir des accords avec des maraîchers, avec des locaux, etc., c'est mieux que ce système qui, au départ, est parti d'une bonne intention, qui était l'obligation légale pour les supermarchés de ne pas jeter des choses, de les donner à des banques alimentaires qui ensuite redistribuent. Après, le problème, on a vu des entrepôts de banques alimentaires. Voilà, il y a des sacs de chips, des calendriers de l'Avent périmés.
Ouais, c'est devenu un business aussi.
Bah, oui, puis parce que pour la grande distribution, ça leur permet de ne pas se poser la question de s'ils en ont trop ou pas. Hein, voilà, de toute façon, le reste, on va pouvoir...
Le surplus, de toute façon, trouvera preneur.
Voilà, on va pouvoir l'écouler, puis on le défiscalisera, puis tout ça, puis ça marchera bien. C'est un système qui tourne.
Donc, vous avez sillonné la France à la découverte, à la rencontre de gens qui prennent leur destin en main, j'ai envie de dire. Le livre commence notamment par un endroit dans le sud de la France qui, moi, m'a beaucoup touchée. Est-ce que vous pourriez nous parler de Soumoulou?
Soumoulou, c'est à côté de Pau.
Dans le sud-ouest de la France.
Donc c'est une région globalement prospère. Voilà, on n'est pas dans le nord, quoi. Hein, c'est plutôt prospère.
Où vous allez aussi, donc on pourra comparer.
Et on est allé voir là aussi quelque chose de un peu auto-organisé, mais grâce à une déléguée du Secours catholique, une dame admirable qui va goûter les produits alimentaires de sa banque alimentaire, parce que elle dit qu'elle ne veut absolument pas distribuer quelque chose qu'elle ne mangerait pas elle-même. Voilà. Et des gens très paupérisés pour des tas de choses, chômage, accident de la vie, etc. Et qui correspond aussi à une paupérisation lente de la région, c'est-à-dire le Béarn rural, sans bruit, crée de la pauvreté parce que des petites usines qui ferment, des petits machins, etc. Donc ça fait pas des gros plans sociaux, mais petit à petit, le nombre de bénéficiaires des banques alimentaires augmente.
Avec un visage de la pauvreté, il faut le rappeler, insoupçonné.
Oui, peut-être,
parce qu'on a parfois une vision de la pauvreté qui est évidente, dont on voit criante.
Ah ouais, mais là, on n'est pas dans la clochardisation. Là, on est dans des gens qui sont au bord encore de l'intégration sociale, mais petit à petit, qui se désintègrent. Et par exemple, ça a été un pays de gilets jaunes. Donc tous ces gens dont on ne savait pas d'où ils sortaient et qui protestaient de façon un peu confuse mais forte. Donc ces gens-là, ils nous ont dit ouais bah nous on a quoi, on a 1 euro par personne et par jour pour se nourrir quoi. Et les produits auxquels on a accès par la banque alimentaire, bah on nous dit il vaut mieux ça que rien. Bah nous on dit il vaut mieux rien que ça carrément. Et là ils ont organisé quelque chose qui est un jardin partagé. Donc la mairie leur prête un terrain à côté de l'église. Il se trouve que ça, c'est comme ça. Et là, sous la direction d'un des
d'un des acteurs,
parce qu'il était jardinier, hein, il fut un temps, ils se mettent à faire un potager. Alors le potager, ils se débrouillent avec aussi de récupérer des graines par-ci par-là, dans les jardineries, tout ça, voilà. Et puis ils produisent des légumes. Ils viennent travailler régulièrement, tous ensemble. Chacun va donner quelques heures pour venir travailler. Et ils ont organisé tout un système de tickets de service. C'est-à-dire, il y a des services à rendre ici dans le village, mais ça peut être, repeindre des volets, tondre la pelouse ou promener le chien, je sais pas. Des choses qui ne correspondent pas à un métier salarié.
Valeur marchande qu'on pouvait retrouver sur place.
Donc c'est juste un service. Et quand ils ont obtenu 2 tickets de service, ils peuvent venir chercher un panier de légumes et travailler au jardin donne droit aussi à ces tickets. Donc du coup, il y a quelque chose qui recrée du social, recrée du lien, recrée de l'enthousiasme, recrée de l'énergie et en plus nourrit correctement les gens. Voilà. Et ça, à partir de quelqu'un qui les a fédérés, qui les a sortis de l'anonymat, parce que bon, ils nous ont tous dit que quand ils ont eu leurs problèmes de chômage, d'accident de la vie, etc., ils avaient tendance à se replier, à rester tout seuls. Et puis, moins on a d'argent, moins on est sociable, parce qu'on peut pas aller boire un coup avec les autres, on peut pas faire des invitations, on peut pas, finalement, on reste chez soi à remâcher son malheur. Et là, il y a quelque chose qui se passe, et on va travailler, on partage, on organise, et tout ça, ça dépend de quoi? Ça dépend d'une volonté politique de la mairie de prêter un bout de terrain, de quelqu'un qui est venu là, qui a un peu organisé tout ça, et ça change la vie, en fait. C'est pas grand chose, mais ces quelques paniers changent la vie.
Parce qu'ils sont ensemble en plus, ils jardinent ensemble, il y a un lien qui se
fait. Le collectif est essentiel. Dans notre monde d'un individualisme triomphant où on est censé finalement vaincre les autres tout seul, là non, on est ensemble et il n'y a que ensemble que ça marche. C'est-à-dire que ce jardin, il ne fonctionne que s'il est travaillé collectivement.
Et d'ailleurs, cette dimension sociale de l'alimentation, elle est fondamentale aussi, elle est totalement liée. Quand vous disiez que la pauvreté et la honte fait qu'on se désocialise, on se replie sur soi, eh bien justement, l'un nourrit l'autre, j'ai envie de dire.
Absolument, et je sais que c'est un peu la mode de se moquer de ces termes de lien social. Ça favorise le lien social, etc. On se moque beaucoup de ça en disant que c'est du blabla. Mais en fait, non, c'est super important. Alors, il y avait une autre épicerie solidaire qui s'était organisée dans un banlieue de Paris, et ils organisaient des sortes d'ateliers pour que les gens viennent faire des choses dans leur pâtisserie, tout ça. Et puis, collectivement, en discutant, ils disaient, mais quel genre d'atelier vous intéresserait? Et il y a quelqu'un qui a dit, on voudrait faire un atelier papotage. Ah ouais, quand on est en banlieue, il n'y a pas d'endroit que ça où on peut se rassembler et bavarder, tout simplement. Et donc, il y a eu un atelier papotage, tel jour à telle heure, on vient boire un café, tout le monde vient et on cause. comme dans un café classique, mais dans des endroits où il n'y en a plus. Et ça, c'est important parce que ça crée ce lien, ça crée cette solidarité.
L'exemple dont vous nous parliez,
c'était Anthony.
Où, là? Alors Anthony, elle est particulière aussi.
Très particulière parce que c'est...
Donc c'est une épicerie solidaire, donc ça veut dire qu'on va pouvoir y faire ses courses, mais à des prix qui sont très bas.
10% du prix, c'est 90% de réduction, mais pour des gens bénéficiaires, par contre, ça se fera par une carte. Ça se fera anonymement, c'est-à-dire qu'on va payer avec une carte qui ne montre pas si on paye le plein tarif ou si on paye le tarif réduit. D'accord. Le tarif réduit est accordé par les services de la mairie à des gens qui sont nécessiteux. Alors souvent, c'est pour leur redonner un petit coup du genre, ils sont dans des dettes, des choses comme ça. Ça leur permet de passer 6 mois, 1 an à pouvoir acheter des produits alimentaires de bonne qualité. Alors ce qui est très très beau dans ce Anthony, c'est que bon, la mairie finance ça. Alors, chose importante aussi, le social, ça se finance. Le social, c'est pas rentable en soi. Et
c'est une volonté.
Si le social est rentable, c'est plus du social, c'est autre chose, quoi. Voilà. Donc, pour qu'on puisse donner des possibilités à des gens, il faut que ça se paye. Et c'est une bonne façon d'utiliser l'argent public. Voilà. Ça, c'est l'aspect politique.
Dernière chose, comme j'ai eu la chance de lire votre livre, l'autre aspect de cette petite échoppe, c'est qu'elle est belle.
Voilà, c'est ça, j'allais y venir. C'est-à-dire que c'est un magasin normal.
C'est un beau lieu, voilà. Même.
Alors, c'est ni un magasin type Bobo Vintage, qui dès qu'on rentre dedans, on voit qu'il y a toute une culture, en fait, derrière, qu'il faut avoir pour s'y sentir bien. C'est un magasin tout à fait normal, joli, les fruits et légumes bien rangés, les étagères en bois bien propres, etc. C'est un beau lieu. C'est un lieu où on a envie d'aller. Justement, il y a tout un espace central où ont lieu les ateliers, etc. Et ça, c'est important aussi parce que il n'y a pas de raison qu'un lieu caritatif soit moche. Le beau, ça coûte pas obligatoirement beaucoup plus cher que le moche. Donc, avec un petit peu d'imagination quand même. Mais ça, c'est très important.
Ça parce participe.
Que ça participe aussi au fait que les gens rentrent là à l'aise. Parce que quand on rentre dans quelque chose qui est visiblement caritatif, ça montre qu'on est visiblement pauvre. Bon, quand on rentre là, eh bien voilà, on fait comme tout le monde. Et les gens qui sont désaffiliés du fait de leur pauvreté, qui sont un peu laissés sur le côté, tout ça, bah, ils se sentent mis au coin, mis sur la touche. Et tout ce qui peut faire qu'ils reviennent dans le jeu social classique, c'est une très bonne chose. Quand Vrac, par exemple, va vendre des produits bio dans les cités, eh bien les gens se précipitent dessus. Alors on dit, ouais, le produit bio, c'est pour les bobos de centre-ville. Ben non, tout le monde en a envie. Et les femmes des cités qui vont en acheter, elles disent, ben moi, je voudrais faire bien manger pour mes enfants. Ce qui est la chose la plus naturelle du monde. Mais auquel ils n'ont pas droit. Et justement, ils ont l'impression, les gens qui sont relégués dans ces cités, qui sont des déserts commerciaux, ils ont l'impression qu'il y a une sorte de plafond de verre qui les empêche d'avoir accès à la vie normale, à la vie commune. Donc la pauvreté, c'est ça aussi. La pauvreté, c'est une mise à l'écart. Et tout ce qui peut ne pas donner cette impression de mise à l'écart, c'est une très bonne chose. Voilà. Et ça peut passer par un magasin normal. Ça peut passer par une carte qui ne montre pas si on est bénéficiaire ou pas. Voilà, discret.
Être comme tout le monde.
Être comme tout le monde. Les gens en difficulté économique, les gens pauvres, ont envie d'être comme tout le monde.
Je vous propose justement d'aller à Paris, dans le 20e arrondissement, dans l'une des épiceries de l'association VRAC, créée par Boris Tavernier. VRAC, vers un réseau d'achat en commun. C'est un groupement d'achat qui achète directement auprès des producteurs des légumes, du fromage, des fruits, des produits bio, en quantité, pour les revendre ensuite à prix coûtant, sans aucune marge, dans les quartiers populaires, comme là, où je me suis rendue près de la porte de Montreuil.
Je m'appelle Arnaud.
C'est Clément.
C'est intéressant d'abord parce que c'est des produits vraiment de qualité. On a des produits bio et si on compare par rapport à des produits dans le commerce, on est à des prix qui sont quand même beaucoup plus intéressants. Et donc du coup, effectivement, moi quand j'ai adhéré, j'étais dans une situation un peu précaire. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir des produits de qualité à moindre coût. Et sans passer en plus par beaucoup d'intermédiaires, c'est-à-dire que c'est quasiment du producteur au consommateur. Et ça, c'est aussi extrêmement intéressant. En plus, avec quelque chose dans une politique du zéro déchet, qui moi me touche particulièrement, où effectivement on vient avec ses contenants et on repart et donc on évite quand même beaucoup de surconsommation, de surproduction et de déchets inutiles en fait. Enfin moi c'est sûr qu'au début, quand j'étais dans cette situation un peu précaire, si j'avais pu faire toutes mes courses dans les magasins bio à 100%, dans du vrac, etc., oui c'est quelque chose que j'aurais adoré mais que je pouvais pas. Et là en fait justement ça me permettait d'être dans une situation qui était pas la plus agréable mais en cohérence avec mes valeurs, de pouvoir effectivement faire quelque chose de responsable et en même temps de consommer de manière qualitative. et dans le respect aussi des producteurs, parce que c'est ça derrière, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de voler qui que ce soit. C'est vrai que parfois quand on va dans les grandes surfaces où on voit des produits avec des prix attractifs, etc., on se demande véritablement ce qui revient aux producteurs. On sait que beaucoup souffrent de ça et là justement on a l'impression de respecter tout le monde en fait. Et ça, moi à chaque fois c'est un plaisir de venir ici, j'ai l'impression de... Enfin, déjà de discuter, il y a quelque chose en plus qui est vraiment, enfin oui, associatif et agréable, et en même temps de me faire plaisir à moi, mais de faire plaisir aussi à ceux qui ont produit derrière.
Est-ce que vous trouvez que c'est une forme de justice en réalité, parce qu'on peut avoir un coup dur et...
Justice, je sais pas si c'est le mot, en tout cas j'ai l'impression que c'est quelque chose de très équilibré et qui met personne de côté en tout cas. Il n'y a pas de jugement, et oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a des moments où, quand on est dans une situation précaire, on a l'impression d'être un peu mis de côté. Ici, en fait, on n'est pas jugé, on n'est pas regardé sur ce qu'on fait, sur ce qu'on fait pas, et sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas. Chacun, voilà, moi, au début, c'est vrai que j'avais la sensation que c'était un truc génial et qu'il fallait absolument que je donne de mon temps pour un peu être dans une balance, pour me dire, on me donne un truc super, donc il faut que je donne de moi. Aujourd'hui, ma situation a évolué, et pourtant, je suis toujours là en tant que bénévole, parce qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche, et c'est hyper agréable, justement, de discuter avec les autres adhérents, avec l'équipe VRAC. Et en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement agréable. Dans mes engagements, j'ai envie qu'une personne qui soit en difficulté puisse avoir accès à des produits de qualité sans pour autant que ce soit derrière des sacrifices. Bah ça, en fait, c'est important pour ça. Ouais.
Ça fait des petites graines aussi qui se sèment.
Ouais, tout à fait. Parce que c'est vrai que dans ces cités comme ça, à la périphérie des villes, faire ses courses, c'est compliqué. On a Lidl et des grandes surfaces, mais pas d'alternative. Voilà. Bon, alors après, il y a des c'est un problème très complexe, un problème économique, social, etc., urbanistique. Bon, en vrac, justement, permet de venir vendre des produits de qualité. Hein. Alors, bon, bio ou pas, mais beaucoup locaux, parce que, justement, le circuit de commercialisation est modifié, et pour des producteurs locaux, c'est une très bonne chose d'écouler une partie de leur production à côté. On se souvient qu'il y a un fromager là qui est dans le Pilat, qui écoule peut-être le tiers ou le quart de la production directement. Et pour lui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il le vend le même prix de gros que à la grande distribution, mais il est sûr qu'on viendra pas le pressurer un peu plus en disant faut vendre moins cher. Et oui. Puis il y a une garantie. Parce que le problème, c'est que les petits producteurs, ils sont pas en position de force vis-à-vis de la grande distribution. Et puis là, bon, on est aussi dans une économie honnête. Éthique, qui cherche pas à faire d'argent. Alors, je voulais justement, vous avez dit, bon, ils vendent à prix coûtant, il n'y a pas de marge, tout ça. Bon, comment vit la structure ? Alors, des fois, quand j'en parle, on me dit, mais ça vit par des subventions, et on sent dans
c'est
le
obligé.
Mot de subvention tout le dégoût du monde libéral vis-à-vis de la subvention.
C'est
non, dégoût. Ils vivent de levée de fonds. Les ONG vivent de levée de fonds. La Croix-Rouge, Médecins du Monde, tout ça, on va pas les embêter en disant « mais ça alors, vous vivez de subventions ?» Non, on cherche des fonds. Et Boris Tavernier cherche des fonds, ici ou là, région, État, Europe, etc. Parce que c'est de l'argent qui est bien utilisé, c'est de l'argent qui va contribuer à améliorer les problèmes sociaux, les liens sociaux, les problèmes commerciaux, alimentaires, etc. C'est de l'argent public bien utilisé.
Et l'argent public, il y en a beaucoup, puisque 600 millions sont consacrés à l'aide alimentaire par an.
Bah oui.
Donc alors, c'est une question de comment répartir.
Et puis même plus haut, on pourrait très bien penser comment on répartit la PAC, c'est-à-dire toutes les subventions européennes à l'agriculture. On pourrait faire des choix d'orientation de cet argent-là.
You may write me down in a history with your bitter twisted lies. You may trod me down in the very dirt and still like the dust I'll rise. Does my happiness upset you? Why are you dressed with gloom? 'Cause I laugh like I've got an oil well pumping in my living room. So you may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, and I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain, I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Now did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops weakened by my soulful cries? Does my confidence upset you? Don't you take it awful hard, 'cause I walk like I've got a diamond mine breaking up in my front yard. So you may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, and I'll rise, I'll rise, I'll rise, 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 out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain. I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise.
Ben Harper, Arise, vous écoutez RFI, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez Le Goût du Monde, Ensemble pour mieux se nourrir. C'est un livre publié chez Actes Sud, écrit par vous, Alexis Génie, avec Frédéric Danhé, qui est journaliste.
Journaliste scientifique, spécialiste du bio, de l'agriculture, tout ça. Voilà. C'est un vrai érudit dans le domaine.
Et Boris Tavernier, fondateur de VRAC, vers un réseau d'achat
entrepreneur
en commun.
Social.
Entrepreneur social et militant.
Très
militant.
Il y croit pour de vrai.
Ouais, mais tous les trois, vous y croyez et nous y croyons beaucoup aussi. Donc, on est très impliqués aussi dans cette idée-là. I'll rise, dit Ben Harper. Retrouver un peu, relever la tête, être debout et l'homme au cœur de tout, c'est un peu le projet.
Oui, tout à fait. C'est parce que finalement, la pauvreté a des effets terribles sur l'estime de soi, sur la place sociale, sur le sentiment d'exister, etc. Enfin, et tout ce qui peut remonter les gens, leur redonner courage, énergie, espoir, etc. Est bon. Et ça peut passer par justement cet aspect alimentaire que l'on peut croire futile, mais non, il y a rien de plus important que l'alimentation, parce que c'est vraiment une fonction humaine fondamentale et une fonction sociale fondamentale.
Sociale fondamentale. On avait dit qu'on irait un petit peu dans le nord. Est-ce que vous pourriez nous emmener dans cette église de Saint-Pierre?
Oui. Alors ça, c'est ce qu'on a vu, c'était à Dunkerque, hein, où une épicerie sociale était en cours de construction. Voilà, donc ils avaient trouvé un lieu qui était une église déconsacrée. Voilà, un très beau lieu en briques modernistes des années 30. C'est vraiment un très bel espace. Et là, se montait avec un petit peu de difficulté une petite épicerie solidaire qui avait commencé par l'achat collectif d'oranges de Sicile.
Deux tonnes, je crois.
Voilà, des tonnes. En gros, chacun met une part et on fait venir ces tonnes d'oranges et on se les partage. Voilà, c'est le principe du groupement d'achat. Et après, l'idée, c'était de faire comme ça avec toutes sortes de produits différents. Ce qui était dommage, c'est que, la mairie semblait pas très sensible à tout ça. Bon, ils ont eu du mal à trouver un peu des financements, parce qu'il faut qu'il y ait des financements. Ils faisaient d'autre part, comme l'église avait un terrain autour, là aussi, un jardin collectif. Ou des gens qui nous racontaient des choses terribles de ce qu'ils avaient vécu, venaient là, puis ensemble, cultivaient. Et c'était un lieu de rencontre, un lieu finalement qui devenait central dans ce quartier tout à fait déglingué, à la nordiste.
Puis vous avez bourlingué, vous êtes allé aussi près de Paris, mais dans le nord cette fois, à Saint-Denis.
Saint-Denis. Alors là, c'est un endroit extraordinaire, où il y avait là aussi une épicerie, plutôt un groupement d'achat. Et c'était un groupement libertaire, anarchiste, qui organisait ça, ils étaient 200, un truc comme ça. Et là, il n'y avait pas de direction, pas d'assemblée générale, pas de rien du tout. Tous les gens étaient reliés par un fil internet et ils causaient, ils discutaient, ils négociaient, etc. Bon, il y avait juste le trésorier qui avait une fonction, parce qu'il faut quand même pas déconner avec l'argent. Et là, les gens mettaient un chèque, 150 euros à peu près, on achetait des produits qui étaient mis dans la boutique, et là, les gens venaient, prenaient ce qu'ils voulaient et ils notaient ce qu'ils avaient pris. Sur un cahier. Et puis après, le trésorier faisait les comptes, etc., pour savoir, tiens, il te reste plus que 5 euros sur ton compte, il faut que t'en remettes un peu. Et alors là, on a ouvert des yeux, on me dit, attends, voilà, comme ça, les gens, ils viennent, ils prennent, et puis comme ça, sans contrôle? Non. Une année, ils ont eu, je crois, sur 100 000 euros de budget de l'année, ils ont eu, je crois, je sais pas, 3 000 euros qui manquaient. Alors là, le fil internet a tourné à toute vitesse. Ils étaient un peu vexés que, comme ça, ils disent, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et un qui dit, il faudrait peut-être contrôler à l'entrée pour voir s'il n'y a pas d'autres gens qui viennent. T'es prêt à contrôler? Non. On le fait pas. Et après, ils se sont dit, c'est peut-être les gens qui se trompent. Donc, interdit de faire ses additions avec son téléphone. Il faut le faire avec la grosse calculatrice, la grosse touche. Voilà. Et puis après, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont mis une étagère de produits suspendus. C'est-à-dire qu'on prend un produit en trop et puis on le laisse gratuitement pour celui qui a besoin. Le déficit a disparu. Alors, on sait pas, en fait, on sait pas. Mais, de fait, il a disparu. Donc, c'est peut-être des gens qui avaient pas fait attention, comme ça, ou alors, en effet, qui avaient pris parce que... Et puis, le fait d'en discuter, dans une discussion permanente, ça tourne. Oh, ouais, moi je croyais que ça existait qu'en Suisse, des choses comme ça, mais non, en France, dans le 9-3, ça fonctionne. Alors, il y a des gens qui viennent les voir en disant, ouais, on voudrait adhérer. Puis ils disent, bah non, on est juste ce qu'il faut, au-delà, on connaîtra pas tout le monde. Donc, venez nous demander conseil, mais créez votre groupement à côté. C'est l'idée de faire essaimer ce genre de groupement. Alors c'est vrai que c'est fragile, c'est un drôle de truc. Mais voilà, c'est ça qui était beau dans ce voyage, c'est qu'on a vu des gens qui s'organisaient de façon toute différente. Après, si on veut faire quelque chose comme ça, mais il faut trouver la bonne organisation. Puis il faut qu'elle soit précise, il faut qu'elle soit, parce qu'après, bon, voilà, l'humain ça déborde toujours, donc il faut qu'il y ait des cadres. L'anarchie ne veut pas dire le manque de cadres, hein. C'est juste que c'est des cadres où il n'y a pas de pouvoir.
Bien la pensée.
Puis un financement sur la durée. Donc il faut savoir combien ça coûte, comment on peut financer ça, comment on peut faire durer les choses, qui prend les décisions, par quel mécanisme on prend les décisions, etc. Par exemple, à Antony, le truc qui marche bien, ils ont réfléchi 2 ans.
Avant de lancer.
Et leur truc marche très bien, c'est très bien huilé, c'est impeccable. Bon, mais ils y ont bien réfléchi. Bon, après, il faut aussi être raisonnable, hein, parce que on a eu vu des groupements d'achats prévus qui discutent depuis des années.
Et rien ne se passe.
Donc voilà. Mais bon, c'est très important ça, l'organisation. Savoir à qui on s'adresse, savoir qu'est-ce qu'on propose, savoir comment on finance, savoir qui fait quoi, c'est important.
S'il y avait un enseignement que vous avez tiré, vous, de cette aventure qui a duré quand même quoi, un an et demi?
En fait,
ça a commencé avant.
Non, ça a duré un an pour le faire et ça a duré un an de plus pour retrouver un éditeur. Non, parce que c'était compliqué, parce que voilà, oui, on a eu d'autres éditeurs qui étaient un peu réticents avec cette merveilleuse réplique de l'un d'eux. Mais comment voulez-vous que des gens dépensent 15 euros pour savoir comment mangent les pauvres? C'est vrai que vu comme ça, oui. Bon, heureusement, Actes Sud nous a accueillis dans sa collection, voilà, du domaine des possibles, ce qui est presque une définition de ce qu'on fait.
Ouais. Comme ça, quelque chose que vous gardez.
Alors, bon, des pauvres d'un toutes sortes, hein, voilà. Mais les gens qu'on a vus, ils étaient vraiment dans des situations économiques difficiles. Mais c'est débattant. Alors après, c'est dur, tout est dur. Là où ils habitent, c'est dur. L'argent, c'est dur, etc. Mais c'est débattant. C'est des gens qui relèvent la tête et qui y vont et qui sont aussi très attachés au collectif. Voilà, c'est plein d'énergie, tout ça.
D'habitude, on conclut cette émission avec un ingrédient et un ustensile.
Ouais, allez. L'ingrédient, c'est le piment. J'adore le piment. Cet été, j'ai passé 15 jours sans en manger. Je suis rentré, ça m'a manqué. Je me suis fait un truc... terrible. En plus, c'est rigolo parce que c'est toujours, là aussi, collectivement, c'est, voilà, on se regarde les uns les autres en tout rouge et c'est sympa. Et finalement, l'ustensile absolu de la cuisine. Mais c'est la table. Et j'adore la table. Chez moi, je me suis acheté une grande table en bois épaisse. Et là, c'est un bonheur. Alors, ça me fait penser à quelqu'un que je connais qui s'appelle Enzo Bianchi, qui est un moine italien à l'abbaye de Bozé et qui, alors lui aussi, il aime manger. Mais il a développé toute une spiritualité de la table et de la tablée, c'est-à-dire l'assemblée qui se fait autour de la table, autour de ce qu'on va manger ensemble.
Eh bien, il faudra nous le présenter. Merci beaucoup, Alexis Génie.
Merci beaucoup.
Ensemble, pour mieux se nourrir, avec Frédéric Dan et Alexis Génie, donc vous-même, et Brice Tavernier, c'est publié chez Actes Sud. Nous laisserons sur la page internet du Goût du Monde les coordonnées de Vrac, de La Cagette, dont on n'a pas parlé, Ma Petite Échoppe, enfin tout plein d'endroits et de solutions trouvées et qui marchent. Pour les mettre en lumière, n'hésitez pas à vous en inspirer. D'ailleurs, si vous cherchez à approfondir un petit peu, on vous aidera à entrer en contact avec les uns et les autres. Ça doit être possible. Et vous, alors racontez-nous peut-être quelles solutions a-t-on trouvé chez vous, des AMAP, des épiceries, des coopératives. Peut-être le mouvement Slow Food est à côté de chez vous. D'ailleurs, on salue, on en profite, Jean-Marie Koalga, Anne et Marie Madi Sankara à Yako au Burkina. Semons ensemble et laissez-nous porter loin votre voix et vos projets. Pour ça, un numéro 336 43 16 15 66 et les réseaux sociaux du Goût du Monde. Merci beaucoup à Cécile Bonici pour la réalisation de cette émission et à vous tous de votre fidélité. Bonne semaine à tous. Traversé par des